Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur le 106,6 de Radio Campus Lille ou sur internet campuslille.com. Le tout terrain à l'affiche de cette émission aujourd'hui avec Guy Pilarzy. Guy, bonjour.
Bonjour la biche. En effet, c'est la journée du motocross, enfin du tout terrain.
L'émission du tout terrain. Voilà. On précise qu'on est enregistré hein, parce que dimanche c'était pas possible.
Ouais, dimanche.
On va faire trop la fête la nuit, durant la nuit, et on se sentait pas capable de pouvoir réaliser une émission.
Ah, voilà. Ouais,
mais c'est pas grave, hein, on est avec vous pendant 90 minutes. On parle très vite avec nos invités.
Oui, alors on a deux invités dans les studios. On a Marc Ourrier qui a fabriqué avec un copain un site concernant le motocross, enfin les classements des championnats du monde, de motocross.
Oui, bonjour. Hein.
Ah ouais. Donc on aura tout à l'heure aussi Cocorico Gilles Lecoq, hein, qui ben, tu pourras discuter d'ailleurs avec lui. On a également Emmanuel Delarue qui fait le quelques épreuves du championnat de France de course sur sable. Hein, et puis normalement tu devais bientôt partir pour Osgore.
Oui, malheureusement je n'ai pas pu y aller.
Voilà.
Ça fait partie des petites contraintes qu'on peut avoir quand on est pilote.
On aura aussi Adrien Van Beveren en direct du Maroc, si on arrive à le capter, parce qu'il est parti faire du test avec ses machines, bien sûr, pour le Dakar qui va débuter dans pas très longtemps. Et nous aurons aussi Arnaud de Mester, cette fois vainqueur du Touquet, et il fait rouler son fils maintenant en junior.
Hein, Irvine.
Voilà. Donc, il écoute bien son père, et puis on verra peut-être un Demester junior gagner l'Enduro Pal, pourquoi pas, enfin, encore quelques années, quoi, mais
il est en phase d'apprentissage.
Ensuite, nous avons aussi au téléphone Pascal Audicaire, journaliste éminent du tout-terrain, principalement du motocross, il est quand même à... Il a fêté son 500e Grand Prix cette année. C'était sur le circuit de...
C'était Grand Prix de France, à Ernée.
Pas à Ernée, c'était dans le deuxième, à Villers-sous-Écot. Voilà.
D'accord.
À Villers-sous-Écot, il a fêté son 500e Grand Prix. Donc, c'est quelqu'un qui s'est connu. Alors, il nous parlera du calendrier 2018 des Grands Prix de motocross. Et ensuite, on fera un petit détour sur le Supercross de Paris de l'U Arena. Et ensuite, un petit mot sur le Dakar de 2018. Look out, mama, there's a white boat coming up the river. With a big red beacon and a flag and a man on the rail. I think you better call John, 'cause it don't look like they're here to deliver the mail. And it's less than a mile away. I hope they didn't come to stay. It's got numbers on the side and a gun, and it's making big waves. John's been drinking since the river took Amilou. So the powers that be left me here to do the thinking. And I just turned 22. I was wondering what to do. And the closer they got, the more those feelings grew. Rifle in my hand felt reassuring.
He said, red man, run. Numbers add up to nothing. When the first shot hit the dock, I saw it coming. Raised my rifle to my eye. Never stopped to wonder why. Then I saw black and my face splash in the sky. Shelter me from the powder and the finger. Cover me with the thought that pulled the trigger. Just think of me as one you never figured. We fade away so young, with so much left undone. Remember me to my love, I know I'll miss her.
Et voilà, au téléphone, nous avons Pascal Audicaire.
Bonsoir.
Bonsoir, Pascal. Bon, un peu de retard, mais t'as été fidèle, t'as resté jusqu'au... Tu nous as entendu.
On voulait te...
Pardon ?
On va quand même pas lâcher les amis.
Ah non, ben non, parce que tu sais que t'étais toujours bien invité. Ta place est toujours réservée ici, à la radio. Hein. Mais bon, malheureusement, plus de Supercross de Lille. T'es parti à Paris, voilà...
Pas de soucis, on arrivera bien à remonter l'île un jour.
Ben voilà. Et par contre, j'ai regardé, tu sais, le Supercross de Genève, je t'ai pas vu sur la piste.
Non, on peut pas faire tout, Guy, faut garder la passion, donc voilà. On est à Osgore, là, parce que ce week-end, il y a la course de sable avant
voilà.
Le hockey, hein. Et puis voilà, et on n'était pas à Genève, non.
Non, parce que je dis, tiens, il est parti avec les girls de Monster Energy, en train de faire des photos.
Non, c'est plus pour nous, ça. On est sérieux, nous.
Ouais, voilà. Ouais, alors, Pascal, on voulait que tu nous parles des épreuves du motocross GP pour l'année 2018. 20 épreuves au programme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le calendrier 2018?
Bah, déjà, 20 épreuves, c'est du jamais vu. Hein.
Ouais,
on arrive à un seuil qui est vraiment difficile à suivre pour beaucoup d'écuries, parce que 20 épreuves avec beaucoup de déplacements lointains, ça commence à faire du bruit et tout le monde grandit un peu, mais la majorité continue à y aller. Donc le calendrier, le promoteur aurait tort de diminuer le nombre d'épreuves. Donc 20 Grands Prix, ça fait un très long championnat. On commence début mars en Argentine. On finit fin septembre en Italie à Imola. Les grandes nouveautés, on retourne en Russie, donc c'est pas vraiment une nouveauté. On va plus au Mexique, on va plus aux États-Unis parce que certains problèmes qui font que les ordinateurs ont... Il y a un break de fait pour les États-Unis comme le Mexique. Par contre, on va deux fois en Indonésie cet été. On y va en meilleure période que cette année, parce que cette année, on est allé en saison des pluies où ça a été catastrophique l'épreuve, puisqu'une manche a dû être annulée. Donc, il y aura l'Argentine en début de saison, l'Indonésie au milieu, et après, c'est un calendrier traditionnel. Un seul Grand Prix en France, on retombe dans la régularité, je dirais, puisque... Cette année, il y en a eu deux, mais c'est exceptionnel. Et par contre, nos voisins italiens en auront trois, puisqu'il y a trois épreuves du championnat du monde en Italie qui relient Ferrosette. Et donc, les Italiens sont preneurs d'épreuves de championnat du monde. Après, c'est un calendrier classique, hein, la Hollande, la Belgique, la Suisse, la Suède, l'Espagne, l'Italie, on l'a dit, l'Angleterre, la France. Voilà, c'est un calendrier solide. Mais c'est une année de transition, puisque l'année prochaine, en 2019, la Chine devrait rentrer au calendrier et peut-être encore un Grand Prix très lointain. Giuseppe Longo, le promoteur du mondial, voulait avoir 20 Grands Prix, dont 5 ou 6 lointains. Donc on y va petit à petit. Il restera à savoir combien d'écuries vont pouvoir suivre ce rythme-là.
Pour l'Indonésie, pourquoi un double Grand Prix
C'est un gros marché pour les constructeurs. Alors c'est pas les motocross qui vendent là-bas, c'est des cyclos, des motos, mais... Beaucoup de constructeurs japonais ont une usine en Indonésie. La majorité des gens se déplacent sur des deux roues. Alors, il n'y a pas de pilote indonésien. Il y a très peu de motocross en Indonésie, mais il y a, y a un intérêt pour le pour la, la moto et le marché du deux roues. Et puis bah, c'est l'Asie, donc à un moment pour un promoteur champion du monde, dans ses engagements avec la fédération, il doit aller un peu sur tous les continents, et donc il fallait aller en Asie. Alors c'est deux week-ends d'affilée en deux endroits bien différents, parce que l'Indonésie est quand même assez vaste. Et voilà, on verra ce que ça donne. On se rappelle qu'en 96-17 on y allait, et c'était des beaux grands prix dans de bonnes conditions météo avec beaucoup de public. Et ben donc voilà, c'est reparti. L'industrie japonaise, je le disais, est quand même globalement favorable à ces épreuves.
Pascal. Bonjour, c'est Marc de Mes Motocross. Je voulais te poser une question concernant Suzuki. Il y a Suzuki qui arrête.
Oui.
Est-ce que tu ne penses pas que ça va faire boule de neige et que ça va inciter certaines écuries japonaises à s'arrêter aussi?
Je sais pas, je pense pas. Suzuki a toujours eu une attitude un peu bizarre, hein, puisque c'est la deuxième fois qu'il se retire du championnat du monde. Il l'avait fait en 83, il était champion du monde. Double champion du monde, tout allait bien, et puis d'un seul coup ils ont dit on arrête, et c'est revenu petit à petit. Donc c'est pas une nouveauté. Suzuki, c'est pas le plus gros des constructeurs moto non plus, c'est pas leur plus gros marché. On peut penser que le MotoGP leur coûte beaucoup d'argent et que ils ont scié une branche, la branche du motocross, pour injecter un peu plus d'argent en MotoGP, où ils ont quand même un petit peu de soucis et ils ne brillent pas autant qu'ils le voudraient. Après, les autres constructeurs ont quand même des plus grosses parts de marché. Ce serait surprenant. Ça aurait été Yamaha ou Honda qui serait retiré. Là, on serait posé des questions. Suzuki, on va dire qu'on a été surpris, mais on l'est un petit peu moins que les autres. C'est pas la première fois qu'ils le font. Est-ce qu'ils reviendront? Rien n'est sûr, rien n'est acquis. C'était aussi le seul team qui n'avait pas de gros partenaires extra-sportifs. Hein. Ils avaient eu Rockstar à une époque et qu'ils avaient quitté depuis 2 ou 3 ans. Et puis, à un moment, il n'y a pas la part de budget. Donc, quand on sait qu'un sponsor de boissons énergétiques peut amener entre 1,5 million et 1 million d'euros, c'est sûr que ça arrange les choses, et Suzuki ne l'a pas trouvé. Donc c'est voilà. Je pense que non, il ne faut pas être trop pessimiste quand même. Maintenant, c'est sûr qu'il faut en tenir compte, et c'est une alerte quand même.
Oui, mais quand tu vois que, par exemple, Husqvarna et KTM, c'est la même famille, tu peux aussi penser que KTM pourrait fermer aussi un robinet sur les deux.
Ce serait surprenant. KTM a l'avantage d'avoir Red Bull derrière. Hein. C'est Red Bull qui les a amenés en MotoGP. C'est Red Bull toujours derrière. Husqvarna, ils ont Rockstar, qui est quand même un gros partenaire. C'est sûr que si un jour les boissons énergétiques disparaissent, il va se passer des choses. Mais il y aura peut-être quelqu'un qui viendra. On a eu la perte du tabac, on a eu la perte des alcools, hein, l'écurie Pernod, qui était impliquée dans le sport moto. Donc c'est des cycles. Pour l'instant, les boissons énergétiques, ça fait quand même pas mal d'années qu'ils sont là, et il n'y a pas de signe comme quoi ils se lasseraient et qu'ils se retireraient. Donc, il faut rester optimiste quand même.
Pascal, une question là sur le Supercross de Liu Arena par rapport à Lille. Ton point de vue?
Mon point de vue, écoute, déjà c'est Paris, hein, donc tu es à Paris, les pilotes américains, quand tu leur dis on va à Lille, ils font des grands yeux, on va où là, c'est quoi? Tu vas à Paris, ils connaissent toute la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Champs-Élysées, donc déjà tu les attires plus facilement. Après, je pense que les provinciaux, c'est un peu pareil, hein, les sudistes, ils montaient à Paris au Supercross, ils ont un peu plus de mal à monter jusqu'à Lille, donc on a retrouvé un petit peu une base plus centrée, on va dire. Et puis je pense que ce qui est important, c'est que la conception du stade est complètement différente. Le point positif pour la U Arena, c'est que les gradins sont beaucoup plus inclinés, ce qui fait que quand tu es même tout en haut de la salle, tu domines la piste et tu as une vision qui serait meilleure. Voilà, donc ça c'est un point. Après, je te dis, tu es Paris, donc tu attires quand même un public qui se va au spectacle, parce que c'est un spectacle aussi. Même s'ils ne vont jamais voir de course de moto, ils vont au Supercross. Et cette année, ça a quand même bien marché. Samedi, c'était complet. Dimanche, il restait un peu de place. Mais il y a une dynamique qui va se refaire et on va sans doute retrouver ces gens, cette clientèle, nouvelle clientèle, qui vient pour voir un show, un spectacle, et qui n'allait peut-être pas à Lille, et parce que Paris, c'est une ville de spectacle et il y a quand même une densité de population beaucoup plus importante. Je pense qu'un des problèmes de Lille, c'est que on pensait que les Belges, les Hollandais, les Anglais viendraient, puisque c'est plus près, mais en réalité, ça ne s'est pas produit. Et on a beau eu, côté organisation, essayer d'attirer les meilleurs pilotes anglais ou belges, ils ont du mal à venir, parce que le Supercross, c'est vraiment une spécialité américaine ou française. On a eu du mal à les bouger. Donc Paris, Paris centralise tout, et cette année, en deux soirées, ils ont fait, ils ont pas mal rempli le stade. Donc voilà, à suivre dans les années à venir, puisqu'on se rappelle que la première année, Lille avait été plein, ça a été un gros succès. Les années suivantes, c'était un peu plus difficile.
Ben oui, il y avait le Bataclan, hein, juste la deuxième édition.
Voilà, et puis il y a peut-être, tu sais, il y a eu l'attrait de la nouveauté la première année, et puis la deuxième année, la troisième, bon voilà, les gens sont peut-être un petit peu désengagés. Comme je te disais, c'est quand même beaucoup plus facile d'attirer des pilotes américains à Paris qu'à Lille, parce que Paris, c'est une ville, la ville lumière, il y a la magie de Paris. Et aussi, il faut aussi dire que on peut faire une piste beaucoup plus grande. Et les pilotes qui sont venus rouler, comme Marvin Musquin, Osborne ou Wilson, ont tous dit que la piste leur permet de préparer la saison américaine. C'est une vraie piste de dimension américaine. Ce qu'on ne pouvait pas faire à Lille, du fait que la moitié du stade est sur vérin et qu'on ne peut pas mettre de terre dessus.
Voilà, oui, en effet. Ouais.
Voilà, donc à suivre.
Bien, écoute Pascal, sur ces bonnes paroles, on aura l'occasion de te rappeler un jour à la radio. Là, c'est calme. Enfin, tu vas maintenant aux courses sur sable.
Il y a le Touquet quand même.
Ah, le Touquet, ouais.
En janvier, il faut préparer le Touquet, Guy. Hein.
Ah, en effet, ouais.
Et je pense qu'on se verra là-bas, d'ailleurs.
Ouais, on se verra là-bas, en effet. Pascal, on te remercie.
Bonne soirée et bonne continuation.
Ok, merci, salut.
À bientôt.
Le tout-terrain à l'affiche aujourd'hui au menu de cette émission avec Guy Pélarzic. Nous allons parler du championnat de France des sables. Guy.
En effet, course du championnat des sables qui a commencé. Voici à Berck et à Longplage, c'est ça ?
Berck le 14-15 octobre, Longplage 28-29 octobre, Saint-Léger le week-end dernier, et là ce week-end, là c'est Osgore.
Donc, toi, tu participes à quelques épreuves du championnat, c'est
ça? Oui. En fait, oui, je suis pilote, donc je fais... Là, cette saison, j'ai déjà fait le Beach Cross de Berck, la Ronde des Sables. Et après, ça va être... là, je suis parti pour le Touquet dans un mois et demi.
D'accord. Il y a eu un Anglais qui a remporté Berck et Longplage.
Nathan Watson. Hein,
Nathan Watson.
Oui.
Mais il faut savoir qu'il est quand même troisième mondial en Enduro Grand Prix. Hein. C'est pas quand même quelqu'un qui...
Ah non, mais c'est quand tu vois sur la piste, c'est un excellent pilote.
C'est un bon client.
C'était une pointure. Hein.
Une pointure.
Je pense qu'en fait, le week-end dernier à Saint-Léger, bon, j'y étais pas, mais bon, j'ai vu un peu les résumés. Je pense qu'à mon avis, c'était le circuit qui lui convenait pas. Je crois que c'est plus un pilote vraiment d'endurance. Et Saint-Léger, c'est vraiment un circuit qui est très particulier. C'est un circuit qui fait en gros 500-600 mètres de long, 300 mètres de large. Dedans, dans ce périmètre-là, il y a 7 km de piste. Donc, c'est un circuit qui tourne en permanence, qui est très, très, très physique. C'est le circuit le plus physique de tout le championnat. Et je pense qu'à mon avis, c'était un circuit qui ne lui convenait pas, tout simplement. Quoi.
D'accord. Et Nathan aussi a eu un petit problème au sonomètre. Oui. Parce qu'il était troisième. Normalement, il devait finir troisième.
En fait, oui. Je pense que tout début de la course, il était un petit peu plus loin que ça. Il a réussi à remonter jusqu'à la troisième ou quatrième place. Et en fait, il s'est fait avoir au sonomètre, parce que bon, il faut savoir qu'au niveau de la législation, à chaque fin de course du championnat, tout au moins pour les premiers passent au sonomètre. Et si jamais ça dépasse, eh ben, on se prend un tour de pénalité. Enfin, moi, à titre personnel, non, ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera jamais, mais les top pilotes passent à chaque fois au sono. Et là, il est passé avec un décibel de trop, donc il s'est pris un tour de pénalité, ce qui veut dire qu'il a terminé à
11e
ou 11e. Dans ces eaux-là, au lieu 3e. Quoi.
Parce que bizarrement, au classement provisoire du championnat, Watson, à Longplage et à Berck, il ne marque pas de points. Et il marque des points à Saint-Léger. Alors, je ne comprends pas comment ils font ce classement.
Alors là, tu me poses une colle. Je pense qu'en fait, il a dû prendre sa licence en cours. Alors là, c'est sous réserve. Hein. Il a dû prendre sa licence en cours de saison. Ça s'est fait un petit peu bêtement. En fait, d'après ce que je sais, il a d'abord fait... il était déjà prévu qu'il fasse Berck. Et si jamais il faisait une bonne performance, il devait avoir le team KTM qui le suivait pour toute la saison. Donc il a gagné Berck, il a gagné la Ronde des Sables à Lune, et en fait ça s'est enchaîné à mon avis un peu plus vite que ce qui était prévu, quoi. Donc mais c'est souvent le souci avec les pilotes étrangers, c'est qu'au début ils marquent pas de points.
C'est peut-être réservé aux pilotes français, peut-être.
Oui, non, mais en fait, c'est un peu compliqué, ce système de points pour les pilotes étrangers. Il y en a qui marquent des points, il y en a qui n'en marquent pas. Et bon, la raison, je la connais en toute honnêteté, je ne la connais pas.
C'est sûrement un problème de licence.
Oui, c'est un problème de licence. C'est un problème de licence.
Ou souvent, les pilotes étrangers, c'est les pilotes invités, souvent.
Il peut y avoir des pilotes invités dernière minute, auquel cas, là, eux ne marqueront pas de points, quoi. C'est
d'accord.
Sûr.
Donc, toi, tu as pris le départ de deux épreuves cette année, c'est ça?
Oui, moi, j'ai fait d'abord Berck le week-end du 13-14 octobre, un superbe week-end. On était tous en manche courte dehors. C'est vraiment une course que j'adore, des petites manches de 20 minutes réparties sur tout le week-end. C'est vraiment un week-end qui est fabuleux. En plus, comme c'est le départ du championnat... Généralement, quand on arrive au mois de septembre, on a tous hâte d'être à Berck.
Tu parlais d'épreuves du championnat de France de course en sable.
Oui.
Il y a, sûrement tu le sais, à Hermenonville, l'épreuve a été annulée à quelques jours.
À 8 ou 9 jours de la date fatidique.
Et tu devais y aller, non? Ou bien là-bas?
J'étais inscrit,
oui. Ah oui, d'accord.
Alors, j'étais inscrit comme à peu près 490 pilotes.
D'accord.
Et donc, 8 jours avant, on a appris que malheureusement la course était annulée parce qu'il y a un recours d'un maire d'une commune qui était limitrophe au parc et qui a, je pense, fait une procédure au niveau de la préfecture, et le préfet a refusé a refusé, a pas donné son feu vert en fait.
Mais c'est
et
quand
donc
même...
c'est annulé. Donc...
Mais c'est quand même aussi un mauvais signe pour les courses sur sable.
Oui, c'est un mauvais signe, mais là, pour une fois, enfin je dis pour une fois, là, la fédération est en train de faire un recours au tribunal.
Oui, voilà,
alors évidemment, pour la course, c'est mort. Hein. Mais est en train de faire un recours au tribunal pour essayer de donner gain de cause à l'organisateur, parce qu'il faut savoir que quand on prépare une course, il y a comme des frais qui sont inhérents à l'organisation de la course.
Ouais, surtout 500 pilotes.
Hein. 500 pilotes, bon déjà, les hôtels, le truc, les machins, donc les bénévoles, enfin tout ça, ça se prépare, les assurances, la police, enfin bon, voilà. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et donc là, la FFM est en train de faire un recours pour justement éviter les recours abusifs, on peut appeler ça comme ça. Parce qu'en fait, la véritable explication, c'est que vraisemblablement, sur le circuit d'Hermenonville, il y avait des lézards.
Ouais.
Et donc là, 8 jours avant, le maire de la commune limitrophe s'est aperçu qu'il y avait des lézards sur le circuit, donc il a fait un recours et le préfet n'a pas donné le feu vert.
Donc ça avait lieu dans le parc d'Hermenonville ?
Non, c'est... enfin, ça fait...
La mer de sable
Moi, je ne suis pas allé à Hermenonville depuis que j'étais petit, mais en fait, c'est à la mer de sable. Et juste à côté du parc, je suppose qu'il y a une zone de forêt, enfin de bois... Avec des petits sentiers, et ça devait se passer là, donc le circuit devait faire 7 km. On était tous impatients d'y aller, et malheureusement, ça... Stand.
le tout terrain de cette émission aujourd'hui, et nous avons Arnaud de Mestre au téléphone.
Oui, bonsoir Arnaud.
Bonsoir.
Alors Arnaud de Mestre, on ne le présente plus, 7 fois vainqueur du Touquet, plus d'autres victoires un peu partout sur les championnats de France de course sur sable. Alors de Mestre, moi j'ai vu, Arnaud t'es un menteur, parce qu'à Saint-Léger, j'ai vu un de Mestre en junior qui termine 36e. Tu roules en junior maintenant.
Voilà, ouais, j'ai rajeuni un petit peu.
Ah, ouais, ben c'est bien.
C'est mon fils qui s'y met. Et bah, depuis l'année dernière, il a roulé au Touquet la première course de sable de sa vie, en fait. Et il a voulu faire le championnat cette année. Et bah, il s'améliore de course en course. Ça a été un peu difficile à Saint-Léger parce qu'il a fait très très froid. Il a fait moins 5 degrés dimanche matin.
Ah, d'accord.
Et le sable était un petit peu gelé, et bon, le sable noir, plus gelé et tout, il n'avait jamais connu ça, et ça a été un peu difficile. Il n'a pas roulé comme il roulait à l'entraînement, mais bon, c'est toujours une expérience de plus, c'est bien.
D'accord, donc on verra de Mestre dans quelques années, vainqueur du Touquet, de l'Enduropal.
Je ne sais pas, mais bon, il est mordu, bon, j'ai réussi le premier à lui éviter de faire de la moto, mais le deuxième, bah, il est mordu, il est tombé dedans malheureusement, mais bon, on verra jusqu'à où ça va nous mener. Maintenant, il roule, je le pousse pas, et il essaye de faire de son mieux, et on verra où ça nous mène, quoi.
D'accord. Lors des premières épreuves à Berck et à Longplage, bon, c'est un Anglais, Nathan Watson, qui remporte, hein, il est quand même...
Ouais.
J'en parlais, il termine troisième au championnat du monde d'enduro GP. Ben, où sont les Français? Parce que bon, ils sont quand même les Potissec, etc., très loin. Enfin, il y a eu des casses.
Au début de saison, ça a été compliqué parce que pour les Français, parce qu'ils n'étaient pas vraiment dans le rythme. Bon, à part Richard Furat qui s'en est bien sorti à l'homme plage, c'est vrai que les Français ont un peu de mal. Après, bon, c'était le début de saison. Bon, Nathan Watson sortait d'une saison d'enduro, bah, il était en pleine bourre, quoi. Et là, c'est le début de saison des courses de sable. Et les pilotes, entre guillemets, de sable se préparent plus pour le Touquet. Ils sont en pleine préparation. Ça, c'est entre guillemets des courses de préparation. D'accord. Et bon, bah, là, on a vu les spécialistes de sable à Saint-Léger sortir un petit peu la tête de l'eau avec une victoire de Richard Furat devant Damon Martens et Camille Chapelière. Mikko Potisek fait quatrième. Bon, après, il y a eu des déclassements avec Yentel Martens et Watson,
oui.
Mais bon, ils ont moins dominé que les deux premières épreuves, et je pense que bah, c'est de bon augure pour les prochaines courses. Là, il y aura Osgore ce week-end, et là, je pense que ça ressemble vraiment à un peu à l'Enduropal, et on verra les hommes forts qui sont en forme à Osgore, et là on pourra voir un peu la hiérarchie pour l'Enduro du Touquet, quoi. L'Enduropal.
D'accord. Et concernant Watson, là, c'est ce problème de sonomètre, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même...
Ouais, après,
c'est l'histoire qui se répète, hein, par rapport à, comment il s'appelait, qui roulait sur Kawasaki, qui a eu... Enfin,
bon, ouais, c'est parti au tribunal. Bon, ouais, après, la fédération, je pense qu'ils en font un peu beaucoup. La fédération de moto, la FFM, en font un peu beaucoup, quoi. Pour un décibel, je pense que ils ont été un peu durs. Pareil pour Yentel Martens. Hein. Bon, moi, j'ai vu les images. Oui, c'est sûr qu'à un moment, il prend la ligne droite à l'envers, mais sur 20 mètres, il n'a pas été dangereux dans tout ça. Le disqualifier complètement de la course, je pense que ça a été un peu gros. Et je pense que pour ma part, il y aurait eu une minute de pénalité ou un truc comme ça, ça aurait été mieux. Mais bon, voilà, c'est leur décision, des fois, elles ne sont pas très bonnes, mais bon. Voilà.
Ouais, il suffit d'un commissaire un peu têtu, et puis voilà, quoi.
C'est bah, les directeurs de course qui sont des fois un peu durs, et voilà, hein, y a déjà eu des trucs un peu similaires l'année dernière. Je pense qu'ils devraient revoir un petit peu leur position là-dessus, quoi.
En plus, Yentel Martens, salut Arnaud, c'est Manu du Racing
ouais.
Tout-Terrain.
Ouais.
En plus, Yentel, quand il a fait demi-tour, il a fait ça juste devant les commissaires, donc
Ouais, mais bon, voilà, il a pas.
C'est pas de bol pour lui. Quoi.
Après 2h20 de course, il est peut-être un peu moins lucide. Ça peut que ça.
Oui,
peut comprendre.
En plus,
il a,
un circuit qu'il connaît pas bien.
Dangereux, quoi. Voilà.
Ouais, sa première année qui venait à Saint-Léger, donc le circuit qu'il connaît pas.
Je pense qu'on peut être un petit peu indulgent et être un petit peu pragmatique dans des décisions. Hein. Après, là, ça a été vraiment dur parce qu'il était quand même, il a, entre guillemets, presque survolé la course. Hein. Il a pendant 2h30, il a vraiment roulé sur un train d'enfer. Et le disqualifier complètement, ne même pas le classer, je trouve ça un peu dur. Oui, et pour l'image du championnat, je pense que c'est pas top. Quoi.
Ouais,
les usines comme KTM, Husqvarna, s'investissent, viennent, font venir des pilotes de Grand Prix, et quand on voit un petit peu, entre guillemets, l'amateurisme de la SFM à ce niveau-là, ça va pas faire venir d'autres marques, ça va pas les faire venir plus.
C'est,
quoi.
Certain.
C'est un peu dommage à ce niveau-là. On a envie que d'autres marques s'investissent, et là, pour des broutilles, on disqualifie un pilote, alors qu'il il aurait pu prendre 30 secondes, une minute de pénalité, être classé quand même, quoi. Mais là, c'est vraiment très dur. Pour 20 mètres, je pense que c'est très dur.
Bien, pour revenir à toi, Arnaud, on te verra à l'Enduropal sur une moto.
Ouais, je me suis pas encore inscrit.
Il faut que tu dépêches, Arnaud.
Voilà, ouais.
Il y a plus beaucoup de place.
Oui, parce que les prix vont augmenter de l'engagement.
Et il n'y a plus que 30
places.
Ouais,
Ah, pour le vintage.
Ouais.
Je vais essayer de m'inscrire cette semaine, mais c'est vrai que bon, je prends ça un peu à la légère. Je m'occupe de mon gamin, j'ai beaucoup de boulot. Je veux m'entraîner. Je m'entraînais 15 jours, 3 semaines et on verra quoi. C'est plus mon objectif premier. C'est vraiment pour me faire plaisir. Maintenant, j'irai au Touquet, ça c'est sûr, parce que j'ai envie de le faire au vintage. Des courses de 3 heures, c'est plus pour moi, mais des courses d'une demi-heure, je pense que je peux encore m'en sortir pas trop mal, et on verra, quoi.
Mais cette course du vendredi, il y a quand même une montée en puissance des machines. Hein. Il n'y a plus d'anciennes machines, maintenant, c'est quand même...
Les pilotes sont là pour, entre guillemets, gagner... course vintage au Touquet. Les motos, bon, la limite c'est 1989 ou 90. Tous les mecs roulent avec des motos qui sont à la limite de l'âge, quoi, pour avoir des motos performantes. Mais bon, c'est une course qui, moi je l'avais dit à Bernard Baudou, j'avais dit il y a quelques années, le vintage va prendre, et c'est ce qui se passe. Hein. C'est ce qui est en train de se passer. Ça prend de l'ampleur, de l'engouement, et c'est tant mieux, quoi, c'est top.
Oui, parce que là on a déjà atteint le nombre. J'ai regardé là cet après-midi, on a déjà atteint le nombre de pilotes inscrits l'année passée. Donc on est déjà à 250 pilotes là au jour d'aujourd'hui. L'année dernière, il y en avait 238 de mémoire qui ont fait le vitesse. Donc tu vois, il y a encore un mois et demi. On va arriver à 300 pilotes. On va arriver à 300 pilotes.
On va faire le plein, ça c'est évident. Non. Et bon, c'est tant mieux, parce que ça redonne un nouveau souffle à des pilotes qui ont envie de rouler avec des anciennes motos. Et moi personnellement, j'aime bien, parce que c'est aussi mon époque, hein, et j'ai commencé en 84, et j'ai roulé avec des motos de 89, 90, ça c'est un peu mes débuts, et c'est vrai que j'aime bien rouler avec ces motos-là. Ça redonne aussi un peu de marché à la moto tout-terrain, hein. Les gars sur le bon coin, on voit dès qu'il y a une pièce un peu vintage et tout, ça, les prix s'envolent, les motos vintage, c'est pareil. Les prix, c'est quasiment les prix des motos neuves maintenant. Non, c'est un nouveau marché, c'est sympa, quoi. C'est sympa.
T'as une question ? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a 2 ans, tu avais quand même une machine d'usine. Hein,
Une machine, j'avais vraiment une belle machine.
Une belle machine,
passionné. D'un passionné de moto vintage et d'un collectionneur, c'est un gars qui a, je sais plus, 100 ou 150 motos personnelles à lui. Il vient de racheter une collection d'un collectionneur suisse avec des motos d'usine de l'époque, des 500 YZM, des Honda HRC et tout. Voilà, c'est un passionné pur et c'est vrai que bah, j'ai eu la chance qu'il me prête cette moto et c'était une super moto, quoi. C'était une super expérience.
Par contre, au contrôle technique, on devrait être un petit peu plus scrupuleux quand même parce qu'on voit quand même des choses assez étonnantes hein, sur des machines des années 80 avec des fourches.
D'année
2002, oui, c'est pas logique. Enfin, on joue le jeu vintage et à fond, ou alors on dit peu importe, tout le monde, il n'y a pas de règles pour tout le monde.
Oui, mais le souci, c'est qu'au contrôle technique, il faut des personnes qui sachent faire la différence. Oui, voilà, là, c'est pas le cas.
Il faut avoir des contrôleurs techniques qui connaissent sur le bout des doigts les années des motos.
Si ça s'était passé à Hermenonville, ça aurait été un petit peu différent parce que d'après ce que j'avais su, ils auraient été beaucoup plus pointilleux, malheureusement.
Ouais, j'avais eu l'organisateur, c'est vrai qu'il avait dit, ça. Mais après, moi par exemple, je me suis fait une superbe moto, je me suis fait plaisir, j'ai fait une Denis Suzuki, j'ai trouvé de la pièce d'usine, quoi, de l'époque. Voilà, ouais. J'ai cherché, j'avais un peu de connaissances en Belgique et tout. J'ai trouvé des fourches d'usine, amortisseurs d'usine, cylindres d'usine. Voilà, quoi. Après, c'est vrai que c'est d'époque. Maintenant, c'est des pièces d'usine, quoi. Mais bon, après, c'est vrai qu'on peut tout faire hein, sur les motos vintage. Mais bon, c'est vrai que... Après, les 500, par exemple, les 500 KX, ça a été fait jusqu'en 98 ou 2000, quoi. Hein. Les 500 CR, c'est pareil. Et les motos n'ont pas évolué de 89 à 2000, quoi. Ouais, alors, il y a des motos de 96 qui sont les mêmes que des 89. Ouais. Mais bon, elles sont plus récentes, quoi. Elles sont un peu plus en meilleur état et tout. Alors, après, bon, c'est vraiment pour s'amuser. Hein.
Ouais, voilà. Bon, ben écoute, Arnaud, on sera au bord de la piste à t'encourager à cette course du vendredi, comme chaque année.
C'est gentil.
Voilà, merci. On aura l'occasion de se voir là-bas. Merci. Merci Arnaud.
À bientôt.
Allez, salut.
Merci, bonne soirée. Au revoir. Yeah.
Voilà, toujours dans l'actu du motocross, nous allons parler de Memo de Cross avec Gilles Lecoq et Marc Ourrier.
En effet, Cocorico.
Oui, bonjour, bonjour à tous.
Oui, avec un peu de retard, Gilou, mais oui. Marc me parle de toi en bien, t'es le meilleur.
Et en mal, Gilou. Et en mal aussi.
Ouais.
En mal aussi, oui.
Ouais,
c'est normal, mais il est plus tout jeune, il se rappelle plus, c'est pour ça.
Ah, voilà, voilà.
Donc, bonsoir, bonjour à tous. Et puis, je suis hyper content de pouvoir vous parler de mes motocross, parce que c'est un petit peu mon bébé. Enfin, Marc a participé aussi à la fabrication, parce que on a commencé ensemble à faire des recherches et tout sur le site. Et puis, on cherchait surtout sur Internet d'avoir des résultats. Et puis on s'est rendu compte que sur Internet, il manquait beaucoup de choses, même sur les sites officiels, la FIM, la CFM, etc. On n'arrivait pas à des résultats complets, donc on s'est mis à chercher comme des malades. Au début, tous les deux,
C'était obsessionnel.
Ouais. On a cherché comme des fous, je dirais presque le jour et la nuit, d'ailleurs surtout la nuit, parce qu'on travaillait, enfin on travaille toujours, surtout lui d'ailleurs. Moi, maintenant, je suis à la retraite. Mais la nuit, jusqu'à des heures très tard la nuit, des résultats, prendre des contacts un peu partout en Europe, Italie, Angleterre, Allemagne, etc. Et puis, on a réussi à remonter tous les championnats du monde jusqu'à leur création en 1952, c'est-à-dire qu'on avait tout. Et puis, avec des tableaux Excel pour arriver à vérifier si le résultat était bon, vraiment pour pas qu'il y ait d'erreur de fait. Et puis, voilà. Et puis, une fois qu'on a terminé ça, Marco, lui, il avait envie de chercher les résultats de manches. D'ailleurs, il cherche toujours des résultats des manches, des grands prix, notamment avant 72, hein, parce que c'est là où les manches manquent le plus. Et puis, moi, j'avais envie de partager un petit peu ce qu'on avait trouvé, parce que je me suis dit, il y a peut-être d'autres personnes qui sont comme nous. Et puis, j'ai eu envie de faire un site. Alors, c'est vrai que je me suis un petit peu inspiré de football. Pourtant, je suis pas un fan de foot, mais il y a Eugène Saccomanno qui est sorti un bouquin qui, je crois, ça sort tous les ans. Je sais pas si ça sort toujours. Ça s'appelle Memo Foot. Et dedans, il y a plein de résultats. Il y a tous les résultats, des statistiques, des résultats des matchs et tout ça. Enfin, bref. Et j'ai puré. S'il y avait ça pour le motocross, je dis ça serait intéressant. Et je me suis mis là-dedans, alors comme un malade, parce que là, du coup, j'étais tout seul. Tout seul pour faire ça. Et puis j'ai commencé j'ai acheté un petit logiciel, et puis je me le suis fait pour moi, et puis une fois que j'ai tout structuré, j'ai mis au moins 3 ans, hein, c'était entre 2009 et 2012 pour le faire, et j'ai mis tous les résultats que j'avais, alors évidemment tout le mondial, et puis la structure du site et tout, et puis je me suis dit, allez hop, je vais me mettre sur un hébergeur, et puis je vais bien voir. Et je l'ai lancé, et la première fois que c'est sorti, officiellement, c'était en septembre 2012, le 1er septembre. Et c'est pas un hasard, parce que c'était la Saint-Gilles, donc je trouvais que comme ça, ça serait une date, je me souviendrai. Et puis c'est parti, et puis j'ai contacté des personnes, je dirais presque des piliers du cross, hein, c'est-à-dire que les Pascal Audicaire, Xavier Audouard, Eric Breton, etc. Et je les ai contactés en disant voilà ce que je faisais et tout. Et puis j'ai un retour quasiment immédiat et très positif de tous. Et puis c'est parti quoi. Donc j'ai publié le site et puis c'est parti. À partir de là, ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. En plus, j'interviens souvent sur des questions en direct quand il y a des directs de Grand Prix, tout ça diffusé à la télé. Et puis enfin, j'ai été contacté par d'autres passionnés, dont un petit gars, Alain. qui est un retraité aussi passionné, qui un jour me dit comme ça, écoute, moi je fais des fiches pilote, mais chez moi, sur mon ordinateur, pour moi tout seul, si tu veux, j'en fais pour toi, je dis pourquoi pas, quoi. Donc ils m'ont fait une, pour exemple, deux, trois, et puis cinq, dix, il dit, écoute, je vais te faire tous les championnats, si tu veux, je dis pourquoi pas, tu envoies. Parce que moi, comme je cherchais tout le temps les résultats, j'avais pas trop le temps de... C'est vrai que j'avais fait une première version du site qui était un petit peu, je dirais, basique, un petit peu tristounette, il n'y avait pas beaucoup de photos, c'était vraiment du résultat pur et brut un peu. Et puis avec Alain, ça repartit. Et puis d'ailleurs, on a refait une nouvelle version complètement nouvelle et refaite. On l'a repris complètement, j'ai racheté un logiciel. Et puis en septembre 2014, le premier aussi. le 1er septembre, toujours, on a refait une nouvelle version, et c'est vrai que je dis toujours, quand je parle de, je dis toujours mon site, c'est mon site, mes motocross, mais c'est notre site, hein, parce qu'autant Marc au début, et puis Alain maintenant, c'est nous qui le faisons, et voilà, et par pure passion, hein, c'est vraiment
pour partager.
Oui, c'est
de la passion complète, hein. On a passé beaucoup de temps là-dessus, et puis et on ne regrette pas, à aucun moment.
Et puis c'est Marco, là ?
Oui, c'est moi.
Ouais. Ok, parce qu'en fait, moi, où je suis hyper content, c'est que des pros, quoi. T'as des gens comme Pascal Dicker qui me contacte, qui me dit attention, il y a une erreur sur telle fiche, tu vois, il faudrait corriger, parce que bon, durant la saisie, on fait une petite connerie, mais qu'il a été quatrième en telle année, tel pilote, et non, il était troisième, donc on corrige immédiatement. Mais je sais que tous les professionnels viennent sur le site et s'en servent comme base, ils comparent, mais même les commentateurs, les Francis Magnanou, la nouvelle génération, hein, on voit Maxime Martin, Jean-Christophe Aschetto, Nicolas Provost, tout ça, ce sont des gens qui s'intéressent au site et qui consultent et qui interviennent, qui me disent des choses, donc c'est hyper flatteur. Et puis tiens, je vais faire quand même un petit coucou à Marc Pétrier de la FIM, parce qu'il m'avait envoyé des tableaux et ça m'a beaucoup aidé aussi pour contrôler. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de travail de fait, c'est un travail de fou, et on est vraiment hyper content parce que maintenant, ça y est, ça roule, mes motocross commencent à être bien connus. C'est vraiment pour partager avec tous les autres passionnés, les gens qui s'intéressent au motocross, au supercross, au site carcross. On met les circuits, on met les constructeurs, les filles, championnat du monde, championnat américain, et puis là
les
en
fiches
ce moment,
pilotes aussi, hein.
Les fiches pilotes, ouais. Les fiches pilotes, fiches pilotes, tu vas sur la fiche pilote, tu as la photo du gars ou de la fille, tu as son palmarès, puis quand j'ai le palmarès, un mec comme Jean-Michel Bell qui c'est pas n'importe qui, on a son palmarès mondial, mais aussi national, mais aussi américain.
Ouais, c'est des palmarès à rallonge. Hein.
Ah oui, c'est un boulot, puis des statistiques de fou, quoi. Vraiment, on essaye d'être le plus complet. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est que le motocross, ce soit vraiment une sorte de comme un dictionnaire, en fait. Quand on a besoin, ben on prend le dictionnaire, un dictionnaire, comme ça, on regarde dedans ce qu'on cherche. Et là, sur mes motocross, je pense que le passionné qui veut savoir un classement des années 50, des années 60, 70, 80, etc., il a ce qu'il veut. De même, les classements par circuit, on a tous les circuits avec les palmarès des circuits, des circuits qui ont reçu un mondial, par exemple, un grand prix. Bon, bah, il y a tout. Il y a les photos des circuits, et si on peut les avoir. On essaye de contacter. Alors, les photos, on essaye d'avoir des photos pour tout. Alors, c'est pas simple parfois. Lorsqu'elles sont signées, on essaye de contacter les gens pour leur demander l'autorisation de les mettre sur notre site. Hein, comme ça, il n'y a pas de souci. Et je dois reconnaître qu'on a toujours des retours positifs. Donc, c'est ça qui est sympa, quoi. Ça nous encourage. Et puis, on a envie de vraiment partager ça avec tout le monde.
Tu vois, Gilles, même moi, je regarde souvent ton site, et encore aujourd'hui, écoute, j'ai découvert, tu sais, le palmarès des machines.
Oui, les constructeurs, oui.
Ouais, et ça, je l'avais pas vu, parce que bon, quand on va sur ton site, on peut rester des heures. Hein,
Ouais.
Et puis, oublie pas non plus que bon, j'ai dû te contacter aussi pour un classement, tu sais, c'était un...
Ouais, pour Éric Dumont. Éric Dumont, ouais.
Ouais, parce que comme les juniors, les seniors, ou bien c'était les seniors, je crois,
ouais,
c'était pas noté. Ouais. Et ensuite, tu sais, le challenge féminin qui existait il y a une vingtaine d'années, toi, j'ignorais complètement. Alors, tu as été sympa, tu m'as envoyé le classement, alors je sais qui c'est qui était championne à cette époque, quoi.
Mais chez mes motocross, on est sympa.
C'est vrai.
De toute façon, moi, vraiment j'aime partager, hein. Ce que j'ai, c'est pas pour moi. J'ai beaucoup de, j'avais acheté des, moi je suis abonné à des revues depuis tout gamin, enfin avant j'étais pas abonné parce que c'était une histoire d'argent. mais quand j'avais un peu d'argent, c'était pour m'acheter une revue, et tu sais, j'ai commencé, enfin vous savez tous, je vais vous le dire, quand j'ai commencé dans les années, moi j'ai découvert le motocross, c'est à Brou, je suis originaire de Châteaudun, donc Brou, c'est dans les années 66-67 que j'ai dû aller à Brou la première fois.
Et comment il s'appelait le président?
à l'époque, je me souviens plus, mais le président, il y avait Queuré. Le président que j'ai le mieux connu, moi, c'était Queuré.
À l'époque, voilà.
Alors, 66, je sais pas, mais en tout cas, il y a été longtemps, en tout cas, le président Queuré. Et alors, le motocross à Brou, c'était quelque chose d'exceptionnel. Le week-end de la Pentecôte, il y avait un cross inter, mais c'était fou. Un plateau exceptionnel, indigne d'un Grand Prix. Et puis un public énorme qu'il y avait à cette époque, enfin c'était une autre époque. Hein. Donc je l'ai découvert là-bas. Et puis même là-bas, toi, quand j'avais vu la course, c'est mon père qui m'a emmené, j'étais tout petit, et le lundi, parce que c'était la Pentecôte, mais le mardi ou le mercredi, on achetait le journal local
du coin,
et je recopiais les résultats sur un cahier. Et je découpais les photos du journal pour les coller, Alors évidemment, tout ça aujourd'hui...
On comprend tout alors maintenant.
Dès le départ, c'était comme ça.
J'ai fait ça aussi, hein, Gilou, t'inquiète.
Et moi aussi.
On a la même maladie.
Moi, je ne l'ai pas fait, je m'excuse.
Alain, qui travaille donc pour le site, hein, il l'a fait également.
Vous êtes trois et vous n'êtes pas dans la même région alors.
Ah non, donc...
Tous les trois, vous êtes éloignés, plus ou moins.
Oui, disons que Marco, Villeneuve-d'Ascq, évidemment, c'est un petit peu loin. Moi, je suis à Tours maintenant. C'est la vie qui a fait ça. J'habite à Tours depuis les années 80. Et puis Alain, lui, il est dans les Charentes. Alors voilà. Mais
comment vous faites pour travailler ?
Le net, le téléphone, et puis par messagerie, par email. Et là, je peux te dire que en attendant votre appel. J'étais en train de télécharger les fichiers de l'Europe parce qu'on va bientôt les mettre en ligne. Et quand je dis les fichiers de l'Europe, c'est les championnats d'Europe, le 85 cm3, le 160, le 125, le 250, et y compris les phases de qualification, c'est-à-dire que les différentes zones et les classements complets à chaque fois. C'est notre truc, c'est les classements complets. Et pour avoir ça, c'est pas simple. Mais on y arrive petit à petit. Hein, il y a des gens qui sont sympas aussi, un peu partout dans le monde, hein, c'est ça qui est fou. Hein. Et puis en plus, ce qui est marrant, c'est qu'en fouillant comme ça, en cherchant, on prend donc les revues classiques qu'on connaît tous, hein, les Moto-Revues, Moto-Journal, Moto-Verte, MX-Mag, mais lorsque c'était dans les années 70-80, il y en avait quand même moins. Et en fait, on compare avec ce qu'il y avait à l'époque, et d'une revue à l'autre. Et on arrive comme ça à des classements différents. on voit qu'il y a des noms qui sont mal orthographiés, ce qui fait que ça donne des classements différents. Et même au niveau de la FIM, on a relevé des erreurs, des trucs un peu curieux. Mais ça passait apparemment.
C'était de l'amateurisme, hein, donc, souviens-toi.
Il faut recroiser les infos.
Ouais. Ah oui, complètement, parce que tu peux pas te fier sur un seul tableau. Tu prends un tableau et dedans un tableau même de la FIM. Hein, moi j'ai des tableaux, beaucoup de tableaux de la FIM. Et je me souviens d'un russe, alors je me souviens plus l'année, c'est Pavel Roulev. On l'a appelé Roulev, on l'a appelé Rouliov, enfin il avait plusieurs noms ce gars, plusieurs écritures, mais pourquoi ? Parce qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des grands prix, les résultats étaient envoyés sur des cartons et écrits à la main. Donc la traduction du russe, du nom russe, est différente pour l'écrire lorsqu'on l'écrit en anglophone ou francophone. C'est-à-dire la traduction n'est pas la même. Et donc on se retrouve avec des pilotes qui sont les mêmes pilotes, mais qui n'ont pas été, qu'on ne leur donne pas le même nom. Et avec des classements donc qui sont faits comme ça. Et c'était fait d'une façon amateur, c'était validé, et puis voilà.
Donc ça veut dire que pour chaque information, tu dois avoir deux ou trois sources.
Ah oui. Complètement, ouais.
C'est titanesque.
Ouais. Et quand on faisait ça, Marco, tu dois t'en souvenir. Quand il y avait un doute, on demandait à nos contacts, sans leur donner ce qu'on avait nous. C'était
ton anecdote avec Roulev, je me souviens qu'un pilote comme ça, un pilote russe, pouvait avoir deux classements. Il pouvait être classé deux fois dans le même championnat.
Voilà, sous deux noms différents. Du monde, on l'a vu donc, classé deux fois.
Alors que c'était le même pilote.
Il avait peut-être plusieurs passeports, peut-être. C'était un agent infiltré.
C'est vrai que c'était difficile. Hein.
Mais les Russes trichent. Et comme ils sont exclus des Jeux Olympiques.
Quand tu as deux sources différentes, tu fais comment alors?
Eh bien, en fait, par exemple, Ben, en fait, par exemple, Marco, il a pas mal de contacts, ben, la Belgique, sur la Belgique, et puis l'Italie. Oui. Ouais. Et puis l'Italie aussi, hein, il y avait avec Franco et des gens comme ça. Ouais. Donc,
c'est des contacts. Ça qui a fait, je te coupe là, mais ce qui est bien, c'est que justement, on ne soit pas de la même région. Parce que moi, j'étais plus axé sur la Belgique, Hollande. Voilà. Ouais. Et puis toi, plus le sud. Donc, à partir de là, on pouvait avoir un éventail plus large.
Absolument. Et puis, ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il n'y a pas trop de revues et de livres sur le motocross, malgré tout, et notamment en France, par rapport à la Belgique, où c'est vrai que c'est un pays, surtout dans les années 70, qui était un pays, je dirais, qui dominait le cross mondial, hein, avec nos héros, Joël Robert, Roger De Coster, etc. C'était quand même ceux-là qui tournaient en Belgique.
C'était le berceau du motocross. Hein.
Ah oui, c'était vraiment la Belgique. C'était, on le voyait dans les courses de le motocross des nations ou le trophée des nations. Il raflait tout à chaque fois. C'était vraiment la Belgique. C'était devenu la première étape du motocross moderne pour moi. C'était la Belgique qui dominait.
Et en Belgique, je te coupe. C'est vrai qu'il y a pas mal de bouquins sur le cross belge, mais ils sont tous en flamand, hein, la plupart. Bien qu'il y ait eu 4-5 bouquins que je possède, sur, c'était Walter Schilden, c'était un journaliste.
Celui qui a fait Qui êtes-vous, Joël Robert.
Voilà, en effet. Alors, j'ai ces bouquins-là, mais c'est des bibles. Gilles, je t'avais accordé 5 minutes, on est plus à 12-13 minutes, tu nous devras quelque chose. Alors je sais qu'on pourrait t'écouter jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'au chant du coq même, mais bon, il y a un moment. Mais on aura l'occasion de te rappeler, parce qu'on avait discuté sur certaines choses que tu voulais mettre un peu...
Ouais, c'était en dehors de mes motocross.
Ouais, ouais, mais c'était très intéressant de ce que tu voulais sortir.
J'ai une question à poser.
Oui.
Alors là, c'est une question, c'est digne d'un jeu. Hein.
Ouais.
Il y a un pilote qui a été invaincu en championnat du monde. D'accord. Il a gagné toutes les manches, une année, il a gagné toutes les manches auxquelles il a participé. Ok. Il est en tête du championnat du monde. Et il a décidé d'arrêter pour faire d'autres championnats. Alors, c'est qui ça?
Et c'est en quelle année?
Bah attends, si je te le dis, tu vas te couper tout de suite.
Ah.
C'est un très très bon pilote.
Stéphane Evert.
Français.
Un Français.
Ouais. Allez Marco.
Il a gagné toutes les manches.
Mais c'était pas un championnat du monde alors.
Moi je peux rien dire, hein. Je suis pas trop motocross. Hein. Si plutôt en vitesse, mais motocross, alors, je peux pas participer.
C'est un championnat du monde. Allez, je te dis 500 cm3.
Jean-Michel Bey.
Bravo.
Oh ah voilà.
Gagné.
Eh ben.
1992.
Il a répondu, il connaît même pas le cross.
Non, mais
il connaît qu'un nom.
Jean-Michel Bey, il a fait du cross, mais il a été aussi en vitesse après. Il a roulé sur les 500. Voilà. Ouais.
Voilà.
Alors, Jean-Michel Bey, 1992, le premier Grand Prix de l'année, c'était, à l'époque, il faisait sa carrière aux États-Unis, c'était le premier Grand Prix de l'année, c'était le Grand Prix des États-Unis à Glen Helen, donc en 92, et il y avait 3 manches à cette époque en Grand Prix, et il a gagné les 3 manches, donc il était à ce moment-là invaincu, en tête du championnat du monde, et il a arrêté puisqu'il faisait après le championnat des États-Unis. Donc c'est le seul pilote à avoir fait ça.
Peut-être que je pourrais intégrer l'équipe de mes motocross.
Ouais,
peut-être Gilles.
Ça sera pas facile.
J'ai quand même des connaissances en cross, voilà. Ouais, là, je vais en parler à Marc, hein, qui est juste en face de moi dans les studios là de campus. Hein.
Je fais le recrutement.
Voilà, hein, il recrute, hein. Voilà.
Voilà.
Après, on en parlera ensemble.
Envoie un CV.
En tout cas, c'est hyper sympa d'avoir mis un coup de projo sur le site et puis de le faire connaître parce que de toute façon, on ne fait aucune pub. Tout est gratuit et on ne le fait pas pour le fric. Donc voilà, c'est juste pour le plaisir. Passion complète.
De toute façon, l'adresse de ton site, on le mettra sur notre forum. Et puis,
voilà. Mes motocross. Mes mots, c'est pour la mémoire, évidemment. Et puis en même temps, ça faisait mes motocross. Bon, ben voilà. Quoi,
tout collé.
Tout collé.
Ok, Gilles.
Tout collé.
On te remercie.
Gilles Lou.
Gilles Lou.
Allez,
voilà.
Cocorico.
Allez, à très bientôt, les gars.
À bientôt.
Allez, salut.
Allez, ciao.
Sunny day, I must impose. Oh, it's not polite to linger. One more kiss and I'll be on my way. My daddy told me, girls like you, a dime a dozen. But when time is rough, a dime's a decent wage. I know it ain't worth.
worth the never mind of fussing, but your eyes will take my breath away. An awesome man the other day, but sometimes you know my eyes tell lies. It could have been just a figment apparition. It was hot and I was tired besides. I must impose, oh, it's not polite to linger. One more kiss and I'll be on my way. My daddy told me, girls like you a dime a dozen, but when time is rough, a dime's a decent wage. I call you up on your phone, but no one answers. Knock your door, but ain't nobody inside. So now I'm laying really quiet in your backseat, watch the streetlights illuminate your eyes. Eleanor, wow, baby, Eleanor. You're kissing your tail, you lie all the time. You're drinking your fish with your bourbon and wine. Catch on my text, make signals and signs. Oh, baby, you're kissing your tail, you lie all the time. You're drinking your fish with your bourbon and wine. Oh, wow.
Et tout de suite, nous allons retrouver Adrien Van Beveren qui se trouve au Maroc, Guy.
Au Maroc, Adrien, bonsoir.
Salut Radio Campus.
Oui, salut. Voilà, vite, rapidement, tu es au Maroc, tu t'entraînes, enfin, tu testes tes machines pour le Dakar, c'est ça?
Exactement, bah, la machine du Dakar est partie déjà dans le bateau,
ah,
dans
oui.
Les canons Yamaha. Mais là, on est avec la moto d'entraînement qui est exactement la même moto, en train de faire les derniers tests de suspension et puis surtout de s'entraîner, de rouler dans le désert, faire des roadbooks, la navigation pour essayer d'être le meilleur possible à partir du 6 janvier.
D'accord. Et sinon, tout se passe bien au niveau mécanique. Mais tu es tout seul là-bas à t'entraîner, non? Ou bien c'est toute l'équipe?
On est avec toute l'équipe Yamaha, mes coéquipiers, Franco Caimi, René Fagoter et puis Xavier de Soupré. On s'entraîne là avant le Dakar. Il y a notre coach de navigation, Jordi Arcaron, aussi l'Espagnol, qui est avec nous. Et puis, ça se passe bien. Là, demain, c'est la dernière journée. Il fait assez froid ici au Maroc, contrairement à ce qu'on peut croire. Mais il y a du soleil, quoi. Donc, c'est un froid sec. C'est plutôt agréable. De bonnes conditions pour s'entraîner. On a fait à peu près 400 km par jour.
Ah, oui,
pas mal de dunes. Pas mal de dunes. On essaie de faire pas mal de dunes parce que cette année au Dakar, il va y avoir beaucoup de dunes, notamment au Pérou. Et voilà, ça s'annonce bien, il faut rester sur ses routes et sans prendre trop de risques et c'est d'avoir le bon rythme. Et voilà, j'espère que ça brillera, que ça marchera bien au Dakar cette année.
Et tu sais que toute la région, elle est derrière toi, Adrien.
Ouais, j'ai vraiment beaucoup de soutien, on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment beaucoup de gens qui... Je reçois des courriers même chez moi, ça me fait vachement plaisir.
D'accord.
Et j'aimerais vraiment beaucoup gagner le Dakar dans les années qui arrivent, si ce n'est pas le prochain, en tout cas bientôt, et j'espère que toute la...
Une dernière question, Adrien, est-ce que tu seras au départ de l'Enduropal?
C'est probable, c'est pas confirmé dans la mesure où ça dépendra de mon état en rentrant du Dakar.
D'accord.
Disons que si physiquement je me sens prêt à le faire, j'ai pas envisagé de ne pas être sur la ligne de départ.
Ok. Adrien, on te souhaite bonne chance. Tu as une question encore ?
Salut Adrien, c'est Manu du Racing Tout Terrain. Au niveau du Maroc là, tu dis que tu fais 400 km de dunes par jour là ces temps-ci ? 400 km tous les jours ?
400. On a fait 500 km hier, 480, on en a fait 410 aujourd'hui. On fait pas que des dunes, évidemment, on roule dans le désert, on a des pistes caillouteuses, très cassées, dangereuses même. On a des shots, on roule vraiment sur tout type de terrain ici au Maroc, c'est ça qui est bien. C'est que c'est un désert qui est ici dans le sud du Maroc, qui est très complet, il y a de tout.
On fait
150 km de dunes là par jour minimum.
Ouais.
Pendant 5 jours, c'est le dernier jour demain. Je suis bien fatigué.
Et après, tu reviens en France.
Je reviens en France, mais j'ai encore une période d'entraînement avec mon coach sur la moto de type cross pendant une semaine. Vraiment, on va pousser la machine et je vais m'entraîner dur. Et après, je vais tâcher de vraiment récupérer pendant les 15 derniers jours avant le Dakar.
Okay, Adrien, on te remercie de ce coup de fil.
À bientôt, les amis.
Bonne chance et salut.
À bientôt, merci. Salut.
Fire.
Alors juste après Adrien Van Beveren, on va parler de cette 40e édition, retour vers le sable pour ce Dakar 2018, Guy.
En effet, 40e édition, on parlait avec Adrien. Trois pays qui vont être traversés, départ au Pérou, Bolivie et l'Argentine. Il y a 14 étapes qui vont représenter quand même 9000 km. C'est-à-dire qu'il y a eu il y a à peu près 5000 km de spécial et 4000 de liaison. 7% des étapes sont à 100% dans les dunes et hors piste. Il y a, le Dakar 2018 enregistre 515 inscrits avec 332 véhicules, motos, quads, voitures, camions. Il y a 190 motos, il y a 100 voitures et 42 camions. Alors les tarifs, parce que je me suis amusé à regarder les tarifs, tu sais, pour ouais, t'inscrire.
On va se faire peur, là.
Pour t'inscrire, je dis déjà... Enfin, tu regardes, tu sais, t'as tiré avant...
Ça va intéresser Manuel, parce qu'il veut, il veut faire cette, la 40e édition l'année prochaine.
Ah ouais, c'est un peu compliqué.
Et tu vas être sponsoré par Radio Campus.
Voilà, bien sûr.
On paye tout. Et paye tout.
Pendant 20 ans, tu vas me faire une cagnotte pendant 20 ans. Aussi, hein.
Alors, en moto, le gars qui a déjà fait plus de 10 participations, il paye moins cher que quelqu'un qui a fait son premier Dakar. Alors toi, tu paierais 16 500 euros.
Oui, c'est les tarifs.
C'est les tarifs.
C'est les tarifs.
Mais
en
pas...
moto. Ah non, mais y a, après, il n'y a pas l'assistance, il n'y a pas la
Il faut acheter la moto.
Ah oui.
L'inscription.
Ça, c'est l'inscription. C'est un peu comme tu t'es inscrit au Vintage, au Enduropal, et t'as payé 120 euros d'inscription.
Ah oui, ouais,
bah,
c'est officiel.
Donc là, c'est officiel. Il croise aussi, c'est comme Marc, il croise aussi les informations. Ah oui, non, c'est un croisou. On l'appelle le croisou.
Alors après, il faut acheter la moto.
Ouais, alors celui-là qui a fait 2 à 9 participations, ah oui, il paye entre deux, c'est-à-dire 15 700 euros. Alors je me suis aussi regardé sur les voitures, parce que bon, c'est toujours intéressant de connaître les prix. C'est 25 100 euros l'inscription pour quelqu'un qui a déjà participé. Et celui-là qui n'a jamais participé, c'est 28 000 euros. Après, il faut acheter la bagnole encore. Hein,
ouais. Après, Manuel, je pense que tu fais partie d'un club assez...
Renommé.
Renommé. Je ne trouvais pas... renommé. Voilà.
Alors, le plus surprenant, c'est les camions. Parce que si tu veux faire le Dakar en camion, pour la première participation, c'est quand même 41 400 euros. L'inscription. Après, il faut acheter le camion.
Alors,
le
camion, ouais, ça vaut... Et c'est plus lourd. C'est plus lourd à emmener.
Voilà, t'as fait ton choix, tu le fais en quoi, alors?
Ah, mais tu vas peut-être le faire en moto quand même, alors.
Et en trottinette, on peut
peut-être le faire en moto.
Mais il ne faut pas oublier non plus, bon, admettons, tu t'inscris, à la première étape, je ne sais pas, tu fais 100 mètres, tu tombes, tu ne peux pas réparer, bon, tes 16 000 euros, tu les as perdus, hein. Hein, c'est ça.
Tiens,
c'est
question, est-ce qu'il y a des infos dans Dakar, dans mes motocross?
Non, non, non,
non.
Non.
Ah bah non,
c'est pas Mémo Dakar, c'est
Dakar. Non, mais Dakar en Afrique, oui, c'est quand même. C'est une course mythique quand même. Avec des choses qui se sont passées quelquefois.
On fera peut-être les courses sur sable et puis aussi le Touquet, qui sait. On peut y arriver. Hein.
Ouais. Mais une bonne nouvelle quand même pour les. Tu sais, pour l'inscription, tu peux payer comme chez Darty en trois fois.
Trois fois, ça je sais, ça. Ça je
Donc c'est déjà. Ça peut
oui, alors, oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu t'inscris au Dakar et quand tu payes la troisième inscription, donc tu payes ton inscription, tu payes le dernier tiers, il faut que tu aies déjà bouclé ton budget. Et là, c'est chaud.
Ouais, ouais. Et n'oublie pas que si tu prends un mécano, c'est entre 9 000 et 12 000 euros hein, son inscription. Hein. Un mécano.
Hein. Et moi, dans mon club, j'ai un pilote que vous devez connaître, Croquette et Gris Croquelois. Ah ouais, fait sa... Enfin, là maintenant, il ne peut plus. Il a eu un grave accident il y a deux ans. Et donc, lui, il a comme fait déjà 9 fois le Dakar. Bon, je ne sais pas comment il faisait pour trouver ses budgets. Enfin, c'est souvent les copains, les relations. En fait, c'est pas relation. C'est comme ça que ça fonctionne pour trouver les budgets, maintenant.
Il suffit plus d'aller... C'est déjà une course.
Oui, mais c'est déjà énorme. Quand tu es connu, c'est plus simple aussi, mais... bon, c'est budget, c'est colossal. Hein.
Au niveau du Dakar, au niveau régional, tu sais qu'il y a une réunion, c'est demain, à Hasbrouck, avec... c'est celui-là qui construit des friteuses, là. On avait enfin, été...
C'était, voilà, ah, c'était
j'ai plus son en tête, mais je sais qu'il a...
qui avait fait le Dakar il y a quelques années.
Oui, mais il était encore même là au mois de janvier 2017. Ouais, voilà. Il était encore là avec une, je crois qu'une camionnette. En fait, il est là pour assister. Enfin, il suit le Dakar. Il fait pas le Dakar, mais il suit le Dakar avec sa friteuse.
Mais je sais qu'à demain, à Hazebrouck, il y a tous ceux qui partent de la région.
Ah bah, il y a normalement les deux quadeurs, Axel Dutry et Simon Witz.
Ouais, voilà.
Ça doit être ça.
Son nom me revient.
Alors Guy, je vois trois pays visités au Dakar, l'Argentine, la Bolivie et le Pérou.
Oui. Et c'est, il commence par le Pérou d'ailleurs. Il y a un pays que je crois qu'il avait arrêté parce qu'il y a eu des inondations l'année dernière. Pour revenir à Adrien Van Beveren, hein, l'année dernière, il a fini à 43 minutes.
Quatrième, je crois.
Il a fini devant l'anglais, c'est l'anglais, hein, Sam Sunderland.
Sam Sunderland.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une pénalité d'Adrien de 58 minutes et 15 secondes. Sinon, il était premier. C'est parce que l'anglais a eu, je crois, 2 minutes.
Non, il n'aura pas été premier de toutes les manières. Bien souvent, ces pilotes-là, à un moment ou à un autre, ont des pénalités pendant le parcours. Donc, parce que là, Adrien, il l'a eu sur la fin, c'est, on va dire que c'est un peu mal tombé.
Oui, mais enfin, s'il ne les retire pas, il est devant, automatiquement.
Oui, mais il n'aurait pas terminé premier. Donc, enfin, bon, attention, Adrien, c'est son troisième Dakar, il apprend vite. De toutes les manières, il n'a jamais... Enfin, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais le but pour lui, c'est qu'il est encore en phase d'apprentissage. Hein, il est encore jeune, Adrien, il est très très jeune. Hein.
Mais 2018 pourrait être son année, hein, 2018.
Ça pourrait. Il s'entraîne très régulièrement à Lune Plage, encore là, ces temps-ci, enfin quand il est dans le Nord, hein, avec Sam Sutherland. Donc ils s'entraînent tous les deux, hein, ils sont copains. Ils s'entraînent tous les deux à Lune, donc on les voit régulièrement là-bas pendant la semaine.
D'accord. Donc, le Dakar, bon, il ne s'appelle plus Paris-Dakar parce qu'il ne parle plus de. Il parle plus de Dakar, Paris-Dakar. Hein, parce qu'avant, le départ se faisait de Paris.
Paris, ouais.
Hein,
ouais.
Moi, je suis allé au Vincennes.
Je suis allé voir un prologue à Sergi Pontoise quand j'étais jeune, je m'en souviens.
À Vincennes, par exemple.
Avec Harry Vatanen.
Ah ouais, c'est vrai.
Harry Vatanen qui avait perdu une roue, je m'en souviens.
Mais il y avait eu aussi un prologue à Arras, je ne sais pas si tu te souviens.
Le départ était d'Arras. Hein, ça fait un peu une polémique, parce que bon, il faut quand même payer...
C'est comme le Tour de France, hein, tu payes.
Ouais.
Hein.
Ouais, voilà. Ouais.
Tu payes les villes étapes.
Lamuche, tu as une question sur les KTM, vas-y.
Oui, je ne sais pas, il y a une nouvelle KTM, j'ai vu. Je ne suis pas trop branché, donc motocross. Non, vous n'êtes pas au courant, non? Oh, bah, apparemment, non. C'est des... Info.
Mais une KTM.
Une fausse information.
Ouais, avec les salons, il y a des nouvelles machines, bien sûr, mais bon. Donc, on va suivre Adrien tous les jours, hein, à la télé ou à la radio, je sais pas.
En fait, il y a un site où on peut suivre à peu près en direct les pilotes, enfin, tout au moins leur performance, qui s'appelle, alors, je n'ai pas l'orthographe exacte, ça s'appelle Tracking Dakar.
Ouais, c'est ça, ouais. Tu prends le numéro, je crois.
Voilà, je me souviens, j'avais fait ça au mois de janvier, alors ça fait quelques mois, je ne me souviens plus des circonstances. Mais
ça ne marche pas toujours. Hein. J'ai essayé, ça ne marche pas toujours.
Ah bah moi j'avais suivi Adrien, c'était pas trop mal quand même, bon, après ils ont peut-être des problèmes d'interférence aussi comme on peut avoir ici. Hein.
Ouais. Alors en parlant du Dakar, il y a un pilote mais bien connu, il l'a fait en voiture, un certain Johnny, un certain Jean-Philippe Smet. Et malheureusement, on n'a pas trouvé un morceau pour sa mémoire, enfin au moins, parce que tout le monde en parle. Et Johnny aimait la moto. Hein,
un biker.
Mais je voudrais faire un parallèle entre le Dakar et le Touquet, tu sais. Vas-y, Marc. Ouais, parce que quand j'y pense, c'est deux épreuves qui ont commencé quasiment en même temps. Et ces deux épreuves qui ont subi des chamboulements, le Touquet parce qu'il ne pouvait plus rouler dans les dunes, et le Dakar parce qu'il devait quitter l'Afrique. Et donc, c'est malgré tout deux épreuves qui continuent à vivre. Donc, elles ont eu deux vies, ces épreuves-là.
Voilà, l'émission va bientôt se terminer, Laurent.
Oui.
D'accord, voilà. Tiens, pour l'Enduropal, vous avez peut-être un pronostic, oui. Le tiercé, éventuellement, ou tout, déjà le gagnant, déjà.
Déjà, je sais pas dans quel état il sera quand il va prendre le départ. Et est-ce qu'il a encore le...
Non, je parle pas d'Adrien, mais cet Anglais, bah,
Adrien,
a gagné.
Adrien, l'année dernière, c'était la même chose. Finalement, il a terminé deuxième.
Après avoir fait un Dakar, il faut arriver en forme quand même.
Bah oui.
Et ça doit être assez éprouvant quand même. Et par contre, cet Anglais là, Nathan Watson,
il va faire partie
très
des
bon
favoris.
Pilote quand même.
Mais avec Richard Fura, avec Camille Chapelier, bon, le début de la saison là sur les trois premières épreuves, il est un petit peu en retrait, mais on est qu'à la moitié du parcours. Il y a Stéphane Wattel qui se débrouille bien, c'est un petit peu l'étoile montante de chez Motoland Seclin, qui se débrouille très très bien d'ailleurs. Puis il y a aussi les Belges, hein, Geoffrey De Vult qui fait tout le championnat, Jentel Martens, on en a parlé tout à l'heure, qui aurait dû gagner à Saint-Léger, bon malheureusement il a été disqualifié, mais ils auraient gagné la course, donc il est là. Mais Nathan Watson, s'il est en forme, on risque de le voir sur le podium.
Et Van de Sande.
Il y a Axel Van de Sande, il commence à monter un petit peu en puissance, mais avec sa Kawa, c'est un petit peu plus compliqué.
Ouais, bah, il nous reste encore... un mois à peu près, un mois et demi encore. Hein,
Ça va vite arriver.
L'émission se termine. Merci d'être venu, Marc. Merci, Emmanuel.
C'était un plaisir.
Merci, Guy. Merci, Laurent. Et on se retrouve dimanche prochain. Au revoir. Passez un bon dimanche.